VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir Nathalie Barger et Gaby Dorsil, bienvenue dans cette édition du 10 janvier 2017. Au sommaire ce soir, Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara a nommé Amadou Gon Coulibaly, secrétaire général de la présidence, comme chef du gouvernement pour remplacer Daniel Kablan Duncan, nommé vice-président.
Gambie, un jour avant l'arrivée d'une délégation de la CEDEAO, la Cour suprême reporte sa décision sur le recours de Yahya Jammeh.
Procès en appel d'Hissène Habré, des milliers de victimes pourraient rester sans compensation.
Le Maroc interdit la production et la vente de burkas sur son territoire.
Le Congrès américain commence les auditions des membres de la future administration.
Dans moins de 10 minutes, l'économie et les sports, tout de suite après le journal.
En Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara a nommé Amadou Gon Coulibaly, secrétaire général de la présidence, comme chef du gouvernement, après la nomination de Daniel Kablan Duncan, ancien premier ministre, comme vice-président, ce dernier étant ainsi devenu le dauphin constitutionnel du président ivoirien Abdourahmane Dia.
Le président Alassane Ouattara a annoncé la nomination de Daniel Kablan Duncan ce matin. Il n'a pas tari d'éloges sur l'homme qui a été son premier ministre depuis 2012. L'opposant Pascal Afinguesson, le patron du FPI, reconnaît ses qualités, même s'il s'empresse d'ajouter qu'il faudra le juger sur ses actions. Un autre ténor de la classe politique, Albert Mabritoua-Keuze, le leader de l'UDPCI, parle d'un homme connu pour sa loyauté et sa compétence. Membre du PDCI, allié du RDR au pouvoir, Daniel Kablan Duncan est un haut fonctionnaire qui a longtemps travaillé à la BCAO aux côtés de M. Ouattara, qui a confirmé qu'il n'allait pas se présenter pour un troisième mandat. Après la réélection de Guillaume Soro à la tête de l'Assemblée nationale et la nomination d'un vice-président, l'attelage institutionnel prend progressivement forme après le référendum du mois d'octobre et les législatives du mois dernier.
En Gambie, la Cour suprême ne pourra pas statuer sur le recours du chef de l'État, Yahya Jammeh, avant plusieurs mois, faute de juge. Bagassi Koura.
L'information émane du président de la Cour, Emmanuel Fagbenle, qui dit attendre l'arrivée de juges du Nigeria et de la Sierra Leone dans les prochains mois. Il a souligné que ces deux pays avaient indiqué ne pas disposer de magistrats pour remplir cette mission dans l'immédiat. Le président nigérian de la Cour suprême a précisé que l'audience qui était prévue ce mardi a été renvoyée au 16 janvier pour permettre de résoudre pacifiquement le litige avant la fin de la transition le 19 janvier. Une autre mission de la CEDEAO est attendue demain à Banjul. Le président Yahya Jammeh, au pouvoir depuis 22 ans, a annoncé le 9 décembre qu'il ne reconnaissait plus sa défaite à l'élection présidentielle du 1er décembre, après avoir pourtant félicité Adama Barrow pour sa victoire.
André Okombi Salissa, candidat malheureux ayant contesté la réélection du président congolais Denis Sassou Nguesso, a été arrêté la nuit dernière et détenu à la direction générale de surveillance du territoire à Brazzaville. Le député de l'opposition était assigné à résidence avant de se mettre dans un endroit tenu secret pendant des mois. En décembre, le procureur de la République avait sollicité la levée de l'immunité parlementaire de M. Okombi pour qu'il réponde de l'accusation de détention illégale d'armes de guerre. Le général Jean-Marie Michel Mokoko, quant à lui, est détenu depuis juin pour atteinte à la sûreté de l'État.
La justice sénégalaise a donné son feu vert à l'extradition du militaire guinéen Aboubacar Sidiki Diakité, alias Toumba Diakité, arrêté le 16 décembre à Dakar et recherché pour le massacre d'opposants en 2009 à Conakry, a affirmé son avocat. Nous attendons maintenant le décret d'extradition du président de la République pour l'attaquer en excès de pouvoir devant la Cour suprême, a ajouté Maître Baba Diop, affirmant que son client ne souhaitait pas être extradé dans son pays pour des raisons de sécurité.
Par ailleurs, 9 militants du Parti socialiste de la majorité présidentielle au Sénégal ont été inculpés et écroués lundi soir après les incidents survenus en mars dernier lors d'une réunion politique à Dakar. Selon Maître Baba Diop, qui est également leur avocat, ils ont notamment été inculpés de tentatives d'assassinat. Il leur est reproché d'être à l'origine de violences survenues au siège du PS lors d'une discussion avant le référendum constitutionnel du 19 mars. Certains proches parlent plutôt de jets d'eau, de sable et de sachets plastiques contre les responsables du parti.
Le procès du leader indépendantiste Biafré Nnamdi Kanu s'est ouvert à Abuja avant d'être immédiatement ajourné au 12 janvier en attendant de nouvelles requêtes de la défense. Le chef du mouvement pour le peuple indigène du Biafra est en détention depuis octobre 2015. Il est accusé avec 3 autres membres de rassemblements illégaux, trahison, conspiration contre l'État et terrorisme. Maître Eshfor affirme que le dossier est vide et que l'accusation n'a apporté aucune preuve de la culpabilité de son client.
Des milliers de victimes de Hissène Habré risquent de ne pas être indemnisées faute d'identification, ont affirmé des avocats des parties civiles au procès en appel de l'ex-président tchadien devant les chambres africaines extraordinaires à Dakar. Hissène Habré a été condamné en mai pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité et en juillet a payé jusqu'à 20 millions de francs CFA par victime.
6 partis d'opposition togolais ont lancé un nouveau regroupement après plusieurs échecs pour défendre des réformes de la Constitution et des institutions censées permettre l'alternance dans le pays gouverné par la famille Gnassingbé depuis près de 50 ans. L'opposition togolaise réclame depuis 10 ans que la Constitution soit révisée afin d'y réintroduire une limitation des mandats.
La branche égyptienne du groupe État islamique a revendiqué l'attentat ayant tué hier 7 policiers et un civil près d'Al Arish dans la péninsule du Sinaï. 5 assaillants ont également trouvé la mort, touchés par les tirs des policiers, selon ce qu'a précisé le ministère égyptien de l'Intérieur. Dans le passé, des centaines de policiers et soldats ont péri dans des attentats islamistes, selon le gouvernement.
Le président de l'instance électorale en Tunisie a dénoncé le blocage inadmissible de la marche vers la démocratie, selon ses termes, fustigeant le retard dans la tenue des premières élections locales de l'après-révolution. Dans un entretien au quotidien La Presse, Shafik Sarzara dénonce les obstacles dans la mise en place de la Cour constitutionnelle et du Conseil supérieur de la magistrature prévu par la transition.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, Donald Trump s'est montré confiant dans le fait que tous les membres qu'il a choisis pour son cabinet seront confirmés à leur poste par le Sénat, qui a entamé ce mardi les audiences. Écoutons les précisions de John Lyndon.
9 auditions de confirmation sont calées cette semaine, malgré les protestations des démocrates qui trouvent ce rythme trop cadencé. Jeff Sessions, nommé à la tête du ministère de la Justice, et John Kelly, au département de la Sécurité intérieure, sont les premiers à être interrogés par les sénateurs. 4 auditions sont prévues demain, dont celle de Rex Tillerson, retenu pour le poste de chef de la diplomatie. Ce calendrier serré a provoqué les remontrances du bureau d'éthique du gouvernement, qui n'a pas eu suffisamment de temps pour vérifier les antécédents des candidats dont certains estiment ce bureau ont potentiellement des problèmes d'éthique. Les démocrates ont cependant peu de chances de bloquer ces nominations. Une majorité simple est requise pour confirmer les candidats et les républicains disposent de 52 sièges sur 100 au Sénat. Par ailleurs, Donald Trump a nommé son gendre Jared Kushner, 36 ans, haut conseiller à la Maison-Blanche.
L'une des nominations ayant suscité le plus de commentaires, c'est celle de Jeff Sessions, le premier sénateur en fonction à soutenir la candidature de Donald Trump. Il est accusé d'avoir tenu dans le temps des propos racistes. Aujourd'hui, le sénateur conservateur de l'Alabama, qui aspire à diriger le département de la justice, s'est engagé à protéger les droits des minorités, notamment des Noirs, et à lutter contre toute forme de discrimination. Plusieurs manifestants ont perturbé l'audition de Jeff Sessions.
Au moins 30 morts et 80 blessés, tel est le bilan provisoire d'un attentat suicide et d'une attaque à la voiture piégée ce mardi à Kaboul, en Afghanistan. Les talibans ont très rapidement revendiqué le double attentat sur Twitter, assurant que les victimes sont toutes des agents de renseignement. Les autorités afghanes ont reconnu que des policiers, membres des services de renseignement afghans, ont été tués dans la seconde explosion.
Un assaillant a été tué et un policier blessé lors d'affrontements ce mardi devant le siège de la police à Gaziantep, dans le sud de la Turquie. Selon les autorités locales, le nombre d'assaillants impliqués n'était pas encore clair. La Turquie a été frappée ces derniers mois par une vague d'attentats sans précédent liée à la rébellion kurde ou au groupe État islamique.
Le nouveau secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a prôné ce mardi une toute nouvelle approche pour prévenir les guerres. Il prenait la parole pour la première fois devant le Conseil de sécurité en tant que patron de l'ONU. M. Guterres a succédé au Sud-Coréen Ban Ki-moon le 1er janvier, promettant de faire évoluer l'organisation internationale et de redoubler d'efforts pour résoudre les crises mondiales.
Alors que l'armée irakienne continue sa marche sur la deuxième ville du pays, Mossoul, le gouvernement du Premier ministre Haider Abadi souhaite la reprise des activités pétrolières dans les zones déjà reprises aux djihadistes. Le ministre irakien du pétrole a appelé aujourd'hui la compagnie pétrolière angolaise Sonangol à reprendre le développement de deux champs pétroliers au sud de Mossoul. Le groupe État islamique y avait mis le feu avant de les abandonner l'an passé. 9 puits incendiés par les djihadistes sont toujours en feu. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com.
Place maintenant à l'actualité sportive présentée par Nicolas Pineau. Salut Nicolas.
Bonsoir Chérubin.
L'information de la journée, c'est bien évidemment la FIFA qui voit la Coupe du Monde en grand, 48 équipes lors de l'édition 2026.
Oui, le Conseil de la FIFA, le gouvernement du football mondial, a adopté aujourd'hui à Zurich la proposition défendue par le président Gianni Infantino. Pour Gianni Infantino, qui a succédé, vous vous en souvenez, en février dernier à Sepp Blatter, ce passage à 48 équipes va accroître l'intérêt sportif de la compétition en donnant à plus de pays, et pas seulement les grandes puissances du foot, l'espoir de se qualifier. On rappelle, Chérubin, que lors de la création de la Coupe du Monde en 1930, il n'y avait seulement que 13 équipes. On est passé à 24 en 1982, puis 32 en 1998. On voit donc que la Coupe du Monde grossit. Elle se disputera donc désormais à 48 pays lors du Mondial 2026. Il y aura une première phase éliminatoire de 16 groupes de 3 équipes, les deux premiers de chaque groupe étant qualifiés pour les 16e de finale. Alors la grande question, c'est évidemment la répartition. Eh bien, aucune précision n'a encore été apportée sur la question cruciale de la répartition selon chaque confédération. On rappelle qu'actuellement, l'Afrique compte 5 représentants à la Coupe du Monde. Une première réaction ce soir sur VOA Afrique du Tchad, une petite nation du football justement. On écoute Djibril Mahamat Dembélé, le secrétaire général de la Fédération tchadienne de football.
C'est vrai, ça peut aider des petits pays. Mais le problème, si on parle de problème sur le plan africain, c'est-à-dire il est positif si l'Afrique ne perd pas ses acquis, à savoir que nous avons aujourd'hui 5 représentants. Si les 5 restent et on les complète, c'est bon. Mais si les 5 se voient partir et puis on partira à 4 ou bien à 3, je ne trouve pas vraiment l'intérêt. Mais c'est vrai, c'est un projet qui est vraiment ambitieux et puis je pense que c'est encore dans une réflexion. Nous, on trouve que si l'Afrique garde ses acquis, il n'y a pas de problème, c'est positif. Que ça puisse nous amener à 5, à 6, à 7, il n'y a pas de souci. Mais si l'Afrique perd des places, je pense que ce n'est pas tellement intéressant.
Djibril Mahamat Dembélé, le secrétaire général de la Fédération tchadienne de football.
Mais Nicolas, c'est aussi une histoire de gros sous.
Oui, c'est ce que dénonce par exemple l'Association européenne des clubs, qui parle d'une décision qui a été prise pour des raisons politiques plutôt que sportives, et c'est regrettable. On le voit, l'argument est aussi financier. Selon un rapport confidentiel de la FIFA, consulté par l'AFP, un mondial à 48 pays assurerait une hausse conséquente des revenus, 640 millions de dollars supplémentaires par rapport aux prévisions d'un mondial à 32 pays lors du mondial 2018 en Russie. Autre chiffre, les revenus des droits de télévision progresseraient également de 505 millions de dollars et ceux du marketing de 370 millions de dollars, selon cette même analyse.
Dopage, les meilleurs athlètes kényans sous la supervision de médecins de confiance.
Oui, le Kenya a nommé 5 médecins de confiance qui superviseront le suivi médical des grands noms de l'athlétisme kényan, et ce afin de mettre un terme au dopage ayant terni l'image du pays ces dernières années. C'est ce qu'annonce aujourd'hui Jackson Tuwei, le président de la Fédération kényane d'athlétisme. Sélectionné par la fédération en collaboration avec la Fédération internationale d'athlétisme, ces médecins auront pour tâche de mettre un terme aux mauvaises pratiques médicales introduites par des médecins kényans accusés de fournir des produits dopants aux athlètes. C'est ce qu'indique toujours Jackson Tuwei.
Et on termine en basket, la NBA, le championnat nord-américain.
New York s'est incliné sur son parquet contre la Nouvelle-Orléans, 110 à 96. Oklahoma City s'impose sur le parquet des Chicago Bulls, 110 à 96.
Voilà pour les sports. Merci Nicolas Pineau.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Nathalie Barge et Gaby Dorsil, en votre compagnie, place au dossier du jour avec une première escale à Abidjan.
Le président ivoirien Alassane Dramane Ouattara a nommé Daniel Kablan Duncan comme vice-président, un poste prévu dans la nouvelle constitution adoptée par référendum en octobre. Monsieur Duncan devient ainsi le dauphin constitutionnel de Monsieur Ouattara. Abdourahmane Dia a joint à Abidjan Alexis Tano, il est journaliste et analyste politique.
La nomination du vice-président de la République de Côte d'Ivoire, M. Kablan Duncan, ne fait aucune surprise, parce que c'était déjà attendu. D'ailleurs, plusieurs jours avant, son nom circulait. C'était en toute logique que Kablan Duncan a été confirmé, si je pouvais m'exprimer ainsi, parce que son nom a beaucoup circulé, en tout cas, dans tous les réseaux. Puis tous les réseaux, on disait que c'était lui qui allait être désigné comme vice-président, et effectivement, c'est lui. Et le choix du président de la République.
Sa nomination n'est pas une surprise donc, mais elle se tient dans un contexte difficile avec la grogne des militaires la semaine dernière et la grève des fonctionnaires. Est-ce que cette nomination peut aider à apaiser la situation en Côte d'Ivoire?
Oui, d'une certaine façon, parce que Kablan Duncan même est un homme du consensus, il fait pratiquement l'unanimité sur ses valeurs, sur son expérience, sur ce que Kablan Duncan a eu comme parcours, et cela ne fait aucun doute. D'ailleurs, Kablan Duncan a plusieurs fois contribué à l'apaisement du climat social. Il a reçu plusieurs rendez-vous sociaux qui avaient des revendications à faire. Et Kablan Duncan a vu comme un homme qui n'est pas politiquement marqué. Il est un homme modéré, même modéré. Donc, je pense bien que sa personnalité pourrait aider quand même à l'apaisement du climat social.
D'accord, mais on voit que l'opposition est pratiquement absente de l'attelage institutionnel en ce moment, alors que le pays veut se diriger vers la réconciliation nationale.
Oui, en nombre, l'opposition ne pèse pas beaucoup, c'est vrai, mais on est en démocratie et l'opposition a quelques représentants à l'hémicycle au Parlement. Donc sur ce point, on peut dire que l'opposition aura son mot à dire, notamment par les jeux des groupes parlementaires qui vont se former là-bas. L'opposition, le FPI qui a 3 représentants, UPC un représentant, mais le PIT a 1 représentant, je crois, avec les autres indépendants qui sont déjà présents. On pense bien que l'opposition pourra s'exprimer librement et on pourra entendre parler de l'opposition, en fait.
Et on rappelle que le président Ouattara a nommé Amadou Gon Coulibaly, secrétaire général de la présidence, comme chef du gouvernement après la nomination de Daniel Kablan Duncan comme vice-président.
Washington Forum ce jeudi, la Côte d'Ivoire, une semaine pleine de rebondissements. Après la fin de la colère des militaires, les chefs des forces de sécurité ont été limogés par décret présidentiel. Alors les militaires sont-ils définitivement rentrés dans les rangs? Guillaume Soro, réélu à la tête de l'Assemblée nationale, et l'ancien Premier ministre Daniel Kablan Duncan, nommé vice-président. La guerre de succession est-elle réglée pour de bon? Laissez-nous vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique. Et rendez-vous ce jeudi à 19h, temps universel, avec Tatiana Mosso et ses invités.
Cap sur la grogne des anglophones au Cameroun. Le nord-ouest et le sud-ouest, les deux régions concernées, sont en crise depuis plus d'un mois. Les salles de classe sont restées vides pour cause de villes mortes, décrétées par les syndicats d'enseignants et d'avocats. Tatiana Mosso a joint à Tchoyi David Abouem, qui a été gouverneur du sud-ouest puis du nord-ouest.
Il y a un certain malaise dans certains milieux anglophones, malaise qui est fondé sur un certain nombre de frustrations et un certain nombre de promesses non tenues, d'engagements non respectés, d'autres comportements qui ne les satisfont pas, quoi. Ce n'est pas que ils veulent, bon, d'autres vous diront ils veulent le fédéralisme, d'autres encore vous diront ils veulent la sécession. Ce n'est pas vrai, ça dépend de qui vous interrogez.
Malaise récurrent et quelle issue aujourd'hui? On sait qu'il y a des négociations avec le gouvernement. Où est-ce qu'elles en sont?
Le gouvernement a déjà répondu à une des conditions préalables des négociateurs membres du barreau et membres des syndicats des enseignants, c'est-à-dire la libération d'un certain nombre de jeunes arrêtés à Bamenda et Yakoumba. Ça va déjà dans la bonne direction. Je crois que que ce à quoi tout le monde s'attend, c'est que le dialogue reprenne vraiment parce que personne n'a intérêt à ce que la situation actuelle perdure. Il faudrait que le dialogue reprenne, qu'on fasse preuve de responsabilité de part et d'autre, de sincérité aussi, et pour qu'on travaille dans la vérité.
Alors justement, vous avez été vous-même gouverneur du Sud-Ouest et du Nord-Ouest. Comment aujourd'hui, avec cette épine dans le pied, le pays peut-il rester uni ? C'est tout le défi pour un pays comme le Cameroun.
Aucun État n'a intérêt à laisser prospérer des foyers d'insatisfaction en son sein. Même sans Boko Haram, je crois que nous n'aurions aucun intérêt à laisser prospérer un foyer d'insatisfaction dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Et je dois vous dire qu'il faut bien comprendre qu'il y a toujours eu des gens dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest déjà qui n'avaient pas voté pour la réunification et qui sont encore vivants. Et ces gens-là, malgré le fait que le vote populaire ait abouti à la réunification, chaque fois qu'ils constatent, par exemple, un élément de mal-gouvernance, ils pensent toujours à ce qui se passait avant et disent que c'était mieux. Donc, je crois que nous avons les moyens de résoudre ce genre de problème si nous sommes suffisamment proactifs déjà pour les percevoir. Les traiter et nous pouvons toujours les résoudre. Le plus grand malheur qui arrivera au Cameroun, c'est qu'on les laisse perdurer sans solution.
C'était l'ancien gouverneur camerounais David Abouem.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
Au Tchad, le syndicat national des enseignants et chercheurs du supérieur, SINEX, membre de la plateforme revendicative syndicale, fait volte-face et suspend pour un mois sa participation à la grève en cours depuis septembre. Cette grève, comme nous le rappelle André Kodmajingar, bloque la rentrée au Tchad.
Cette décision a été prise suite à la rencontre que les responsables du syndicat ont eue ce lundi 9 janvier 2017 avec le ministre en charge de l'enseignement supérieur. Sous la menace des hautes autorités, le SINEX a capitulé. Non seulement il appelle à la reprise des activités académiques, mais suspend son président pour avoir signé le document de la plateforme dénommée MESSI, Mouvement pour lever citoyens, au nom du SINEX sans informer la base. Dr Faustin Dingaonarbe-Laubol est le secrétaire national aux relations extérieures et à la communication du SINEX.
Le gouvernement avait eu une stratégie sadico-cynique d'amener le SINEX à être responsable de l'année blanche, ne pas nous payer le mois de janvier et geler nos primes jusqu'à octobre 2017. Nous avons eu partout des pressions, des menaces, puisqu'on est parti avec un document que le SINEX a signé dans le MESSI. Et ils nous ont accusé qu'on a basculé dans la politique. Et là, nous sommes menacés de dissolution.
Quelques syndicalistes rencontrés à la Bourse du Travail se disent déçus du comportement des responsables du SINEX.
Je trouve que c'est une trahison dans la mesure où nous avons travaillé ensemble. Et s'il faut suspendre ou lever la grève, on doit lever ensemble. C'est une lutte sociale. On ne peut pas demander à redresser la situation sociale sans pour autant parler de la politique. Je trouve que c'est assez navrant que des chercheurs au niveau de l'université nous fassent compagnie alors que le bout du tunnel n'est pas loin. Je pense qu'il leur manque la culture de lutte syndicale.
Pour moi, c'est une surprise aussi, comme tout autre, mais j'émets quand même des réserves. Si c'est une défection, effectivement, ça va fragiliser la lutte.
Je suis un peu vraiment déçu. Dans le cadre de la lutte syndicale, on ne se précipite pas comme ça.
Pour Dr Faustin Dingaonarbe-Laubol, la suspension de cette grève est salutaire pour les enseignants-chercheurs.
Quand il y a un problème qui se pose, chacun interprète de sa manière. Comme nous sommes une instance de décision, si on voit quelque chose qui peut arriver aux enseignants, on prend notre responsabilité de les sauver d'abord et les expliquer pourquoi on a fait ça. Donc le SINEX reste un membre fondateur de la plateforme de revendication syndicale. Ce n'est pas une trahison d'ailleurs. Eux-mêmes, ils savent à peu près pourquoi nous sommes partis.
Les responsables de la plateforme revendicative syndicale ont tenu une rencontre d'urgence ce mardi matin pour statuer sur la question, mais rien n'a filtré pour le moment. André Kodmajingar Ndiamena pour VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur voafrique.com. À tout de suite.
Selon plusieurs médias marocains, les autorités marocaines ont interdit la fabrication et la vente de la burqa, ce voile intégral à l'afghane, rarement porté par des femmes au Maroc. Le ministère de l'Intérieur met en avant des raisons sécuritaires, comme nous l'explique le journaliste Ali Bouzerda, joint par Salwa Jafari.
C'est une note du ministère de l'Intérieur qui a été envoyée aux représentants locaux dans les différentes régions du Maroc. Et selon la copie qui est sortie dans les médias, bon, ils demandent aux commerçants de liquider leur stock et de ne plus vendre la burqa ni de la commercialiser.
Mais est-ce que la loi existe ? Est-ce qu'on parle d'une loi ou vous avez dit tout à l'heure une note ?
À mon avis, c'est un texte, non. Il n'a pas été annoncé par le gouvernement ni par le Parlement. Donc c'est une note de service interne au ministère de l'Intérieur. Le ministère peut décider l'interdiction de choses qui portent atteinte à la sécurité de l'État. Et donc le ministère a justifié auprès des commerçants que certains malfaiteurs, des criminels, utilisaient la burqa pour attaquer les gens ou commettre leur forfait.
Alors j'imagine qu'il y a eu des réactions par rapport à cette décision du ministère.
Les premières réactions qu'on a accueillies, la première c'est de Cheikh Hassan Khtani. Selon lui, cette décision du ministère de l'Intérieur est une décision discriminatoire, du moment qu'il n'existe aucune loi interdisant aux femmes le port de cet habit musulman. Mais de l'autre côté, le salafiste, le prédicateur Cheikh Mohamed Fizazi, qui est à Tanger, et il voit que la burqa est devenue avec le temps un symbole de la haine envers la société et de l'extrémisme de certains groupes islamistes radicaux. Alors pour lui, le ministère de l'Intérieur doit s'exprimer ouvertement sur cette interdiction afin d'éviter toute confusion ou extrapolation entre interdiction de la burqa et celle du hijab, le voile traditionnel marocain.
Est-ce qu'on pourrait s'attendre à l'interdiction du port de la burqa ou du voile intégral au Maroc ?
Je ne pense pas. À mon avis, ce qu'on veut décourager, c'est la fabrication et la commercialisation de ce produit. Mais je ne pense pas qu'on arrivera à aller vraiment interroger les gens dans la rue, à leur interdire, comme en France, de porter cette tenue islamique, même conservatrice ou salafiste, comme on veut. Je pense que c'est une décision qui est plutôt à la sécurité, plutôt qu'à l'aspect religieux.
Ali Bouzerda est analyste politique au Maroc.
Salut les amis, Roger Moumtou, la voix de l'Amérique. Restez branchés chaque mardi dans l'émission RM Show entre 20h et 21h, temps universel. Au menu, antenne libre, des sujets, débats. RM Show donne la parole aux auditeurs de la VOA. Ne ratez pas votre émission interactive. RM Show vous dit Peace Africa.
Ungakhulumu bonjes, mina I'm double HP and thrombus. Na fukwa party is on six. I skis for the miss, no best, we don't mix. We don't mix, I'm up to my old tricks.
Intelligente complicité de Michel Joseph et de Wagner Robert. Qui nous vaut de terminer ce soir avec Ricky Rick de l'Afrique du Sud. C'est la fin de cette édition. Nathalie Barge et Gaby Dorsil étaient à la présentation.
Et ainsi va Le Monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook et rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com. À très bientôt. Bonne soirée. Au revoir.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM, Kledou FM Bamako, Raga FM Goma, 96.5 Fraternité FM, Parakou Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.